Vous écoutez
RMC.
C'est fini! L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde! Les Français peuvent exulter! Le staff et Didier Deschamps, ils peuvent se prendre dans les bras car les Bleus verront Dallas! Victoire 2-0 face au Maroc grâce à Mbappé et Dembélé!
RMC, intégrale Coupe du Monde.
Simon Dutin.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Vous êtes au bon endroit. RMC, le temple du foot à la radio. Le ballon ne s'arrête jamais de rouler. L'after est là tous les soirs de l'année. Avec, pour vous accompagner durant ces deux heures, deux consultants de choix, Elton Mokolo, Younes Belhanda. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Vous êtes en forme, messieurs ?
Très en forme.
Messieurs, je me permets de vous rappeler que nous sommes le 12 juillet 2026. Il y a 28 ans, l'équipe de France s'apprêtait à remporter la première Coupe du Monde de son histoire. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez ce jour-là, à cette heure-ci ? Alors, Elton, toi, t'avais quoi, 5 ans ?
Parfaitement. Moi, j'avais 5 ans en 98 et j'étais pas en France. J'étais à l'époque dans la ville de Katwijk aux Pays-Bas.
D'accord.
Parce qu'à l'époque, ouais, j'habitais. C'est vrai, à l'époque, j'habitais là-bas. Et c'est depuis cette ville que j'avais suivi l'équipe de France.
Et t'as un souvenir donc de cette.
J'ai un souvenir. J'ai davantage de souvenirs du deuxième but de Zinedine Zidane quand il fait le bisou sur le maillot.
Ah.
Pour moi, c'est le souvenir le plus marquant.
Image iconique, évidemment. Younes, t'as un souvenir, toi, de.
Ouais, je me souviens très bien. On partait en vacances avec la famille. On partait au Maroc en voiture par l'Espagne. Et c'est le match qu'il fallait pas rater. Mon père a décidé de partir ce jour-là au Maroc. Et donc on a écouté le match à la radio espagnole.
Génial.
Donc pour te dire, j'écoutais, j'entendais but et tout, mais je comprenais rien. Je me disais, est-ce qu'il y a but, il n'y a pas but. Donc c'était quelque chose. Hein.
28 ans déjà, 12 juillet 2026, 12 juillet 98. Alors qu'on est là, à deux jours d'une demi-finale face à l'Espagne, à se demander si la France peut ajouter une troisième étoile sur ce maillot. Au programme ce soir avec vous, messieurs, l'équipe de France, évidemment, à 48 heures de cette demi-finale face à l'Espagne. Les dernières infos des Bleus dans un instant. RMC au plus près des joueurs Didier Deschamps qui doit évidemment déjà avoir sa petite idée sur la façon d'aborder cette rencontre. À quelle équipe de France doit-on s'attendre face au roi de la possession? Enfin, jusqu'à cette édition 2026. D'ici 21h au programme également, l'avis d'Elton, épaté par cette profusion de talents individuels en équipe de France. Et puis coup de projecteur évidemment sur l'Espagne. Est-ce qu'on surestime un petit peu cette version 2026 de la Roja? Venez-vous aussi au 32-16 ou sur le WhatsApp RMC nous donner votre avis. Dans la deuxième heure, on se demandera ce que la présence des quatre premiers du classement FIFA, c'est historique, dans le dernier carré, nous dit du niveau de cette Coupe du Monde. On parlera de l'Angleterre et de Jude Bellingham, un peu agacé par les propos de Thomas Tuchel après la rencontre hier. Et puis Younes et Elton nous concocteront leur 11 de ces quarts de finale. Venez là aussi comparer votre équipe type à celle de nos experts.
On a travaillé là, on a été très sérieux là.
On va voir si vous avez bien bossé, parce que moi je vous ai concocté un petit quiz de connaisseurs pour la fin de
c'est
l'émission.
C'est pour Younes le quiz.
Oui, méfie-toi Younes, il fait toujours le modeste Elton, mais bon.
Bonjour. Bon, je regarde tous les matchs. J'ai fini à je sais pas quelle heure hier avec l'Argentine.
Oui, voilà. Je sais. Moi, j'ai écouté beaucoup l'antenne.
Et c'était pas beau en plus.
Younes, qui est une sorte de révélation parmi nos consultants de cette Coupe du Monde.
Ah ouais,
on parle de lui sur les réseaux.
Exactement.
Que de louanges. Il est aussi soyeux qu'il l'était sur le terrain. Et c'est sincère. Au 32-16 également, on faisait ce petit rappel historique. Venez en fin d'émission si vous avez des souvenirs, vous aussi, de ce 12 juillet 98. N'hésitez pas à venir partager ça avec Elton, avec Younes et puis avec les auditrices et les auditeurs. On aime évidemment ce souvenir de ces grands moments. Voilà le menu. Il est copieux, c'est tant mieux, comme d'habitude, dans les nuits de l'after qui démarre tout de suite sur RMC. Je vous rappelle le 32-16 évidemment, le direct sur le chat de la chaîne YouTube de l'After et puis le WhatsApp de RMC 06 12 424 424. Vous le savez, en ce lien entre vous et l'antenne, c'est un petit peu la promesse de RMC, vous n'hésitez pas à en profiter. Avant de dérouler notre programme, l'événement sport de ce dimanche, c'est la finale à Wimbledon entre Alexander Zverev et Yannick Sinner. Eric Salio, bonsoir.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous. C'est un moment important puisqu'il y a pas de break pour Sinner. On est dans la fin de troisième set. C'est une balle de 5 jeux entre Sinner, qui s'est gamellé, mais il s'est rétabli et donc l'échange se poursuit. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et voilà, et Zverev qui part à la faute, qui jette sa raquette de déception. Le break est fait. C'est le premier break du match après 2h54, Simon. C'est une belle stat ça, hein.
Ouais.
Et Sinner donc qui prend un ascendant assez important. Un set partout, il va servir donc pour prendre cette troisième manche et marquer un petit peu le moral de l'Allemand. Mais cette gamelle de Sinner en plein échange,
ouais, c'est ce qui est fou, il a tout de suite switché.
Ah oui. Il était skieur, hein, tu sais, ça sert. Hein.
Oui, bien sûr. Et la faute de Zverev en coup droit, évidemment, rassure-nous.
Oui, en coup droit. Bah, il est en train de baisser en coup droit, mais il a livré ouais. deux heures fantastiques côté coup droit.
Ah bon.
Et ça commençait à se dérégler dans le tie-break.
Une fois n'est pas coutume. On revient dans un instant pour la conclusion donc de cette troisième manche. Eric Salio, évidemment, qui vous fait vivre cette finale de Wimbledon. On va dérouler notre programme en compagnie d'Elton Mokolo et Younes Belhanda, nos consultants. Mardi soir, 21h, heure française, la France affrontera l'Espagne à Arlington, Texas, pour une place en finale de cette Coupe du Monde 2026. Dispositif exceptionnel, vous vous en doutez, sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Vous ne manquerez rien sur notre antenne de cette montée en pression, en température, en puissance des Bleus jusqu'au coup d'envoi. On va prendre les dernières infos concernant les joueurs et le staff des Bleus avec l'un de nos envoyés spéciaux RMC auprès des Bleus, Valentin Jamin, en direct depuis de Boston, avant de filer bientôt à Dallas dans la foulée. Salut Valentin.
Salut à toutes et à tous. Je suis même devant l'hôtel des Bleus qui viennent de partir direction l'aéroport, devant des dizaines de personnes qui ont acclamé notamment Kylian Mbappé, bien évidemment.
Tiens, comme par hasard.
Salut Valentin.
Salut.
Valentin, les dernières infos autour des Bleus avec toi. Qu'ont-ils fait aujourd'hui? Le programme, tu nous en as dévoilé une partie. Raconte-nous là tout ce qui s'est passé depuis ce matin pour eux et tout ce qui va se passer jusqu'au coup d'envoi mardi soir. Ah.
Les infos sont positives déjà pour l'équipe de France. On a eu ce matin, donc à 10h heure locale, donc 16h heure française, une petite conférence de presse avec deux défenseurs centraux qui jouent peu, Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix, qui se sont exprimés une quinzaine de minutes face aux médias. C'était une heure avant la séance du jour qui s'est tenue à huis clos du côté de l'équipe de France. Et donc, séance au complet. 26 joueurs étaient là. C'est la bonne nouvelle parce qu'hier, Saliba et Upamecano étaient préservés. Alors, c'est régulier. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, mais Saliba est gêné au dos, Upamecano des fois a des petites douleurs à droite à gauche, donc le staff est vraiment dans une optique, on va dire, plutôt de récupération entre les matchs. Donc hier ils ne se sont pas entraînés, aujourd'hui ils étaient là, tout comme Tchouaméni qui enchaîne les séances après avoir manqué les deux derniers matchs, gêné au niveau de l'adducteur, la cuisse, voilà, à la frontière. Et Kylian Mbappé, eh bien là aussi on s'était posé la question, il avait reçu ce coup à la cheville face au Maroc, il était sorti un peu plus tôt, donc lui, eh bien là il n'y a pas d'inquiétude, tout le monde est à 100% ou presque. Et donc Tchouaméni doit faire son retour dans le 11 de départ. La seule interrogation concerne l'aile gauche avec Barcola ou Doué pour la composition, mais sinon on aura quasiment la même avec Tchouaméni en plus. Et pour terminer sur le programme, donc Simon, les joueurs sont rentrés, ils ont déjeuné, ils viennent de partir ici, il est 14h, direction l'aéroport, le vol est à 15h heure locale, direction Dallas, et il y a quand même 4h30, 5h de vol, donc c'est un bon petit voyage, une heure de décalage horaire à absorber également, et peut-être, on va être très précis, des turbulences, parce que même nous, notre vol est incertain pour ce soir, donc ça va bouger un petit peu.
Tiens, tu décolles dans un instant, après les Bleus, sur la trace des Bleus, hein, RMC évidemment, au contact de l'équipe de France pour ne rien manquer des dernières infos. Valentin Jamin en direct de Boston, lieu du camp de base des Bleus, que les Bleus viennent donc de quitter. Est-ce qu'on a une idée, Valentin, sur les conditions climatiques, météo, qui attendent l'équipe de France et l'équipe d'Espagne dans le Texas? Est-ce qu'il va faire encore plus chaud que sur la côte est?
J'ai envie de te dire, peu importe, puisque le stade est climatisé et que le stade est quasiment fermé. Donc, en fait, ils vont jouer dans un cadre agréable, j'imagine une vingtaine de degrés. En tout cas, tout cela est réglé. Après, pour les séances, il fera lourd pour le moment. Mmh. On a déjà notamment Nicolas Pelletier qui est sur place, qui nous disait que la météo était chaude et lourde. Voilà, un peu irrespirable, mais en tout cas pour les conditions de match, le match sera en plein après-midi heure locale à Dallas, mais il n'y a pas d'inquiétude parce que c'est la première fois que les Bleus vont jouer dans un stade qui est climatisé.
Ce qui est un enjeu très important après ce qui s'était passé contre le Paraguay, et les conditions climatiques étaient limite dantesques.
On était à 40 degrés quasiment, ouais. Ressenti, enfin non, à l'ombre, et donc ressenti bien plus sur le terrain. Et d'ailleurs, derrière, les séances avaient été hyper légères, parce que pour récupérer d'une bataille comme ça sous une telle chaleur, c'est vrai que ça avait été compliqué.
C'est l'un des avantages attachés au fait d'utiliser les infrastructures de la surpuissante ligue de football américain. Donc dans ce stade des Cowboys de Dallas, je ne dis pas de bêtises, mon cher Valentin, je crois que la température...
Non, tu le dis avec beaucoup d'assurance, en tout cas.
Ouais.
Je crois que la température...
Tu mets moi-même le doute.
La température, il est fixée à 23 degrés, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais, c'était entre 22 et 23 degrés, ouais.
Oui, Younes, tu confirmes que c'est idéal, 23 degrés pour
ah, c'est magnifique, ouais. Hein, c'est magnifique, c'est un très très bon temps. Donc voilà, si le terrain est un peu couvert avec la clim, moi j'ai l'habitude au Qatar de jouer avec les stades de la Coupe du Monde avec la clim, c'est magnifique. tu ressens rien du tout, donc c'est des conditions idéales pour jouer.
Mais on aura besoin de ça pour avoir la meilleure version de tous les acteurs possibles, voilà. Parce qu'on sait que cette Coupe du Monde, ok, il y a l'aspect foot, mais il y a surtout l'aspect climatique qui peut niveler les valeurs, qui peut niveler les performances. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs échantillons entre le France-Sénégal, le France-Paraguay, même le France-Maroc, où les conditions climatiques, bah forcément, ont une influence sur les rencontres. Donc c'est pour ça que pour le contexte, parce qu'on sait que ça va être un match qui pour moi devrait être spectaculaire, on a besoin d'avoir le meilleur contexte possible.
Et bien justement, messieurs, il n'y aura pas d'excuses liées à la météo. On parlera tout à l'heure avec Nicolas Pelletier qui est déjà à Dallas et qui a vu l'Espagne s'entraîner aujourd'hui de cette équipe d'Espagne. Est-ce qu'elle ressemble vraiment au stéréotype espagnol? Est-ce que c'est toujours la même Espagne que par le passé? À quel match des Bleus vous vous attendez? Quelle équipe de France vous souhaitez voir mardi soir face à l'Espagne? Est-ce que vous voulez des Bleus entreprenants ou des Bleus un petit peu patients, prudents, j'ai envie
non,
de dire?
Non, moi je veux toujours de la conviction, je veux toujours une équipe de France qui soit dans la conquête par rapport à tout ce qu'elle a montré. Tout à l'heure on va parler des individualités de l'équipe de France. Aujourd'hui tu arrives avec beaucoup de confiance, il faut pas non plus être dans l'auto-satisfaction permanente, mais tu as quand même marqué une quinzaine de buts. T'as le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde, t'as Ousmane Dembélé qui est déjà 5 buts sur ce mondial, donc forcément avec ta défense également, tu te dis que voilà, à la différence de la demi-finale d'Euro où t'es arrivé, tu t'étais qualifié, mais c'était un long chemin de crosse, c'était pénible et tu savais pas comment aborder ce match contre l'Espagne. Là j'ai la vision, là tout est clair du côté de l'équipe de France, tout est bien rangé. Et tu dois démarrer comme ça, tu dois attaquer l'Espagne de cette manière-là.
Younes, toi aussi, tu as la vision, il faut jouer avec nos forces et ne pas se préoccuper de qui on a en face.
Ah ouais, bien sûr, il faut qu'ils restent conquérants, essayer d'aller les presser, surtout qu'ils jouent avec un faux numéro 9. Donc ça laissera les 6 et les défenseurs centraux de faire monter le bloc et d'aller presser comme ils l'ont fait depuis le début. Après, bien sûr, l'Espagne, vous savez très bien comment elle garde bien le ballon. Elle va faire mal à la France, mais la France va leur faire très mal aussi parce que défensivement, l'Espagne, ben, c'est un peu lourd, c'est dans le dos, c'est compliqué. Donc voilà, continuer à avancer tant qu'ils le peuvent. Après, dans les moments où ils n'auront pas la possession de ballon, faire très attention sur les petits jeux. Ils aiment bien s'infiltrer dans l'axe avec Rodri qui fait accélérer le ballon. Donc avec une touche, on l'a vu sur un but de Merino, si je me rappelle bien. C'est ça, il fait accélérer le jeu. Donc être très attentif les centraux. Et bien sûr, il y a mal qu'on ne présente plus. Donc voilà, restez conquérants et jouez comme ils le font depuis le début.
Vous gardez un petit peu vos cartouches, Elton et Younes, sur cette équipe d'Espagne et la façon dont elle a fait sa mue, ouais. Et ce qu'elle risque de nous proposer mardi. On est un petit peu plus de 48 heures du coup d'envoi de ce France-Espagne, demi-finale de Coupe du Monde. Valentin Jamin, on imagine que les joueurs de l'équipe de France présents en conférence de presse ont été interrogés sur la tactique à employer face à l'Espagne. Qui était bien présent sûr. Et qu'ont-ils dit aujourd'hui?
Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix. En plus, le contexte est quand même, j'allais dire, un peu particulier, puisqu'on reste quand même sur une équipe d'Espagne qui nous avait battu 2-1 et éliminé de la dernière grande compétition, la demi-finale à l'Euro 2024. Il n'y avait pas grand-chose à dire, où les Bleus avaient été en grande difficulté en attaque et c'était avant tout appuyé sur une défense très solide. Et un an plus tard, le score final en demi-finale de Ligue des Nations, c'était 5-4 pour l'Espagne, mais à l'heure de jeu, on perdait 4-0. Donc, il y a une petite notion de bête noire, entre guillemets, de revanche. En tout cas, voilà, l'Espagne, c'est l'équipe qui nous sort ces dernières années. Donc, on en a parlé, notamment Ibrahima Konaté, qui nous a quand même, et à juste titre, dit que, en Ligue des Nations, la défense, c'était Kalulu, Konaté, Lenglet, Théo Hernandez. Donc, en termes d'automatisme, c'était pas exceptionnel. Mais surtout, on a compris que, dans son esprit, c'était plus le même type d'opposition. Sur ces deux matchs-là, l'Espagne avait eu le ballon, l'Espagne avait construit, l'Espagne avait poussé, et la France était plus une équipe qui résistait, qui essayait en transition avec les individualités d'attaquer. Là, j'ai l'impression que Konaté nous a expliqué ce matin qu'on était passé sur autre chose avec ce 4-2-3-1, avec ces quatre offensives, avec une équipe de France proactive. Écoutez-le, on a quand même la sensation que cette fois, les Bleus veulent montrer un autre visage.
C'est clair que on est une équipe aussi qui grandit, qui évolue, qui se connaît de mieux en mieux jour après jour. Et sur le terrain, on peut voir que à quelques moments ou à plusieurs reprises, on peut imposer notre rythme ou imposer notre capacité à faire mal. Et le plus important, c'est de continuer ainsi. Mais on ne sait pas ce qu'on va avoir face à l'Espagne. Donc, on va peut-être avoir besoin de nos qualités. On va peut-être avoir besoin des consignes aussi du staff, du coach. Mais tout est important pour pouvoir faire un grand match face à cette nation.
En tout cas, on ressent quand même que on n'y va pas en se disant on va subir le jeu espagnol, etc. C'est aussi la confiance accumulée, hein, bien sûr. La France, c'est la meilleure attaque. La France n'a encaissé que 2 buts. Le groupe est vraiment confiant en mission. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer, messieurs, ce petit surnom. Je ne sais pas si Younes t'en donnait avec tes coéquipiers, mais ils s'appellent les méchants entre eux. Voilà, c'est nous les méchants. C'est ce que nous expliquait, écoutez, Maxence Lacroix, qui nous a un petit peu dit pourquoi ils se disent ça dans le vestiaire et même sur les petites vidéos sur les réseaux sociaux.
Cette formule, elle montre un peu la mentalité de l'équipe. Je pense que c'est pas négatif, c'est plus du positif. C'est une phrase pour nous motiver et pour aussi montrer que voilà, on est une équipe qui est remplie de combattants, de guerriers qui veulent sortir la tête haute de cette compétition. Et c'est comme ça qu'on aborde les matchs, voilà, pour les gagner, pour montrer aussi cet ADN qu'on a de combattants.
Et enfin, il y a quand même aussi, bien sûr, la mentalité et le fait de savoir que là, on passe encore un step, même si le Maroc était une équipe dangereuse. On sait que là, face à l'Espagne, on va subir et il va falloir être aussi très, très bon.
Bon, messieurs, ça fait plaisir d'entendre Konaté, Lacroix, comme ça, en conférence de presse, même des joueurs qui jouent peu, qui ont l'air quand même pleinement investis.
Ce qui ressort, c'est qu'il y a un côté force tranquille et on est convaincu de la bonne méthode de ce qu'on fait depuis le début de la Coupe du Monde. Et pour moi, c'est une différence qui est majeure par rapport à l'affrontement lors de la demi-finale d'Euro. Et pour moi, il y a un point de passage qui est très important pour expliquer l'équipe de France de 2026. C'est cette demi-finale de Ligue des Nations où c'est vrai que tu as été mené et que tu prenais même un écart. Mais moi, j'ai le sentiment qu'à posteriori, c'est l'acte de naissance de l'équipe de France des quatre offensives, parce que le fait d'avoir ce déséquilibre en seconde période, de pouvoir poser des problèmes à l'Espagne, même si l'Espagne avait fait de la rotation sur la seconde période, et bah tout ça a incité pour moi Didier Deschamps à continuer à garder le cap avec cette équipe de France des quatre offensifs, en te disant que les individualités allaient derrière se fidéliser, que ce soit Ousmane Dembélé qui était sorti sur blessure, Michael Olise qui allait prendre du poids, Kylian Mbappé qui reste Kylian Mbappé. Et tout ça, moi j'ai le sentiment que ce match à Stuttgart a donné des idées et qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas sur l'aboutissement du projet, mais on est sur une étape très importante avec cette demi-finale de Coupe du Monde contre l'Espagne qui t'a inspiré quelque chose.
Younes, t'es d'accord avec ça? Il y a eu un après Ligue des Nations malgré la défaite face à l'Espagne.
Bien sûr. Quand tu vois sur ce début de Coupe du Monde ce qu'ils font, et je reviens dessus, les méchants, c'est parce que devant, ils sont chirurgicaux, tu vois, à chaque fois, ils ont envie de marquer, Olise a envie de faire la passe, Mbappé a envie de faire la passe pour que Dembélé marque, Dembélé pareil pour Mbappé, Doué c'est la même chose, et derrière, les deux centraux qui mènent toute cette défense, ils sont très méchants quand ils vont sur l'homme ou dans les courses. Ben ça fait peur quand tu vois Upamecano de courir après, tu as peur d'aller au duel avec lui. Et je te le dis, ça fait très peur. Et Koné, Rabiot ou Tchouaméni qui t'harcèlent, Ils l'ont montré contre le Maroc, où le Maroc n'a rien montré. Ils ont été harcelés en permanence. Donc, bien sûr qu'elle fait peur. Et le choix de Didier Deschamps de laisser cette équipe toujours la même, avec le même quatuor offensif, eh ben ils ont toujours ces automatismes et ils ont grandi comme ça. Et tu les sens encore de mieux en mieux. Et quand il y en a un qui est un peu bloqué ou qui est dans un bon jour, ben tu sais que de l'autre côté ou dans l'axe, ben t'as des autres qui font la différence. Donc cette équipe, elle est pour moi complète.
Elle est méchante, elle exécute ses adversaires. Valentin, avant de te libérer, de te laisser embarquer là pour Dallas, rappelle-nous l'info que tu nous donnais qui semble tenir la corde. Tchouaméni devrait faire son retour comme titulaire.
Oui. C'est ça, il a raté les deux derniers matchs et très très bien suppléé d'ailleurs par Manu Koné, mais il y a quand même une hiérarchie dans cette équipe de France. Tchouaméni est vice-capitaine, Rabiot ne sortira pas du 11, et même si Manu Koné est un titulaire bis, on le dit nous et on le répète depuis le début de la compétition, dans l'esprit du staff, il n'y a pas vraiment de raison, même en termes de performance, même si certains préféreront peut-être le volume de Koné, mais de sortir Tchouaméni. Donc ce serait le changement dans le 11 de départ, sinon ça ne bougerait pas. Maignan dans la cage, Saliba Upamecano en charnière à droite, Koundé à gauche, Digne qui fera face à Lamine Yamal, et donc Rabiot, Tchouaméni, Olise en soutien de Mbappé, à droite Dembélé, et à gauche Doué quand même a fait un bon match face au Maroc, beaucoup d'efforts, c'est le joueur qui avait même récupéré le plus de ballons, donc peut-être a-t-il une petite avance sur Barcola, mais ce sont toujours des choix qu'on connaît un petit peu au dernier moment.
Tous ces thèmes s'entremêlent, on en reparlera évidemment d'ici quelques minutes en expertisant un petit peu les forces et les faiblesses de cette sélection espagnole. Quelle solution pour contrer Yamal et ses copains. Merci beaucoup, Valentin.
Avec plaisir.
Salut, Valentin.
Le moins de turbulences possible, évidemment. Tu retrouves les copains RMC, notamment Nicolas Pelletier, qui est déjà sur place à Dallas. Et on te retrouve, évidemment, très rapidement sur l'antenne de RMC. Elton Mokolo, Younes Belhanda, nos consultants, qui vous accompagnent jusqu'à 22h. Dans un instant, Elton nous donnera son avis sur la profusion de talents individuels dans cette équipe de France. Avant ça, détour par Wimbledon, le Center Court, la finale du tournoi masculin. Eric Salio, où en sont Zverev et Sinner?
3h10 de jeu. C'est important la durée du jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. 2-7-1 pour Yannick Sinner. 1 partout dans le 4e set. Donc ça avance très lentement, on le constatait. Et ce qui est intéressant, c'est que Sinner n'a jamais gagné un match de plus de 3h50. Ah. Donc peut-être que là, il va briser une sorte de malédiction. Mais attention, il faut le gagner ce match. Il n'est pas gagné parce que Zverev est toujours debout. Donc 2-7-1 pour Yannick Sinner. 6-7, 7-6-6-3, 1 partout dans le 4e.
Ce qui est fou,
et c'est on a jusqu'à 23h.
Bah oui, c'est ça. Depuis 15 ou 20 ans, c'est désormais à Wimbledon quasiment qu'on a les matchs les plus longs, alors que avant le gazon était censé quand même accélérer un petit peu le.
C'est lent, c'est lent ce gazon.
Ah là 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 là.
Même toi, tu pourrais t'exprimer.
Ah, tu sais que j'avais un service volé qui tenait la route en interclub.
Ah oui, hein, ah oui, mais voilà. Là, service volé, tu peux plus faire service volé.
Ben bah, oui, bah, évidemment.
Ah là, t'as un
tu prends des retours dans les pieds.
Le Stade Bessaquet Union Club s'en souvient, mon cher.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit.
Voilà. Écoute, je t'attends pour une petite partie. De double, tu verras, il me reste un petit peu.
T'avais une référence en joueur de tennis,
voilà. Ah, Pete Sampras, moi je voulais avec Sampras.
Ah oui, bah oui.
Et pour l'éternité. Merci beaucoup, Eric. On te retrouve évidemment tout à l'heure pour la suite et la fin peut-être de cette finale du tournoi masculin Wimbledon. Zverev face à Sinner. Vous ne bougez pas, Elton Mokolo. Younes Belhanda revient dans un instant. Elton a envie de nous parler de cette profusion de talents individuels en équipe de France. À tout de suite.